Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Tchad, ouverture ce lundi à N'Djamena du Forum pour les réformes institutionnelles. Ils prennent part plus de 800 personnalités représentant les partis politiques de la majorité présidentielle, la société civile proche du pouvoir et des membres de la diaspora tchadienne. Mais la réunion est boycottée par les principales formations politiques de l'opposition. Le président Idriss Déby a invité les participants à un débat franc pouvant aboutir à la naissance de la 4e République au Tchad. Plus de détails sur le projet à l'étude avec John Lyndon.
D'après le rapport du comité technique, le projet prévoit plusieurs amendements à la constitution tchadienne qui date de 1996. Selon le nouveau texte, le président de la République sera élu pour un mandat de 7 ans au suffrage universel direct et il ne sera rééligible qu'une seule fois. Aujourd'hui, le président est élu pour 5 ans et n'a pas de limite de mandat. L'actuel président tchadien Idriss Déby Itno en est à son 5e mandat depuis son arrivée au pouvoir en 1990. Le pouvoir législatif devrait être renforcé par la création d'un Sénat. Selon le document, le nombre des députés serait fixé à 130 membres contre 188 actuellement et celui des sénateurs à 48. Le mandat des députés et des sénateurs sera désormais de 6 ans renouvelable. L'actuel mandat des députés est de 4 ans. Le projet prévoit également la suppression de plusieurs grandes institutions comme la médiature, le Conseil économique et social et le Collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers. Enfin, les régions, actuellement au nombre de 23, seront transformées en 14 provinces.
Au Burundi, le président burundais Pierre Nkurunziza a fixé au 17 mai la date du référendum sur une réforme constitutionnelle controversée qui pourrait lui permettre de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Le point avec Bagassi Koura.
Les autorités burundaises avaient précédemment annoncé que le référendum aurait lieu en mai, mais n'avaient pas fixé de date. Le décret de dimanche précise que la réforme sera adoptée si la proportion des votes favorables est de 50% plus une voix, une disposition critiquée par l'opposition et certains observateurs. Ces derniers notent que la Constitution prévoit que toute révision de cette dernière doit être approuvée à la majorité des 4/5 des membres qui composent l'Assemblée nationale et des 2/3 des membres du Sénat. Le décret de dimanche ajoute par ailleurs que les partis ou individus souhaitant participer à la campagne pour ou contre cette réforme doivent s'inscrire auprès de la CENI, la commission électorale, entre le 23 mars et le 6 avril. Toute l'opposition burundaise est contre une révision constitutionnelle qui, selon elle, va signer la mort de l'accord de paix conclu en 2000 à Arusha, en Tanzanie, lequel accord avait ouvert la voie à la fin de la guerre civile de 1993 à 2006, ayant fait plus de 300 000 morts. L'annonce en avril 2015 de la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat avait plongé le Burundi dans une crise politique qui a fait depuis au moins 1 200 morts et plus de 400 000 déplacés, sur laquelle la Cour pénale internationale a ouvert une enquête.
Élection à RDC, divergence de vues entre Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kaboun, deux éminents cadres de l'UDPS, autour d'une éventuelle alliance avec le MLC, le Mouvement de Libération du Congo, et l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise de Vital Kamerhe. À 9 mois de la date du scrutin présidentiel fixé par la Commission électorale nationale indépendante, l'opposition risque donc, comme en 2011, d'y aller en ordre dispersé. Mise en perspective de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, le Mouvement de libération du Congo, MLC, et le Front pour le respect de la Constitution, ainsi que l'Union pour la nation congolaise, se sont rencontrés en vue de mutualiser leurs efforts et s'aligner sur des objectifs.
Cette annonce de Madame Eve Bazaïba, secrétaire générale du Mouvement de Libération du Congo, avait jeté les bases le jeudi dernier d'un front commun des 3 grands partis d'opposition en vue des élections du 23 décembre courant. Au terme d'une réunion entre Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et Eve Bazaïba, un accord de principe était couché sur un communiqué annonçant une mutualisation des efforts, je cite, « pour gagner ensemble le combat de l'alternance lors des prochaines élections », fin de citation. Mais c'était sans compter sur la réaction musclée le soir même de Jean-Marc Kabunda Kabund, le secrétaire général de l'UDPS, qui a aussitôt rejeté cet accord. Son problème, c'est Vital Kamerhe.
Vital Kamerhe est parmi les gens qui ont dévoyé l'accord d'Assa-Sylvestre. En signant avec l'MLC l'arrangement particulier au Palais du Peuple, Vital Kamerhe avait craché sur nous tous. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui rassure que Vital Kamerhe et l'MLC sont réellement sincères pour que nous puissions engager l'UDPS dans une telle démarche? À lui-même, Félix, je lui ai fait savoir que je n'étais pas d'accord parce que, personnellement, je n'étais informé ni de loin ni de près de tout ce qui s'est passé. C'est pourquoi j'ai rejeté tout. Et c'est même la position de l'ensemble de notre base.
Le camp Kamerhe a réagi à cette virulente attaque, appelant Kabund à plus de réalisme. Mais ce dernier, qui dit être le seul à engager l'UDPS en tant que secrétaire général, est resté ferme sur sa position. Il dit attendre des garanties avant de lancer le parti de feu Étienne Tshisekedi dans une quelconque alliance. Dans la rue, les Kinois sont également divisés sur la question d'une alliance ou non en vue des élections.
Ça, c'est un échec. Ça, c'est noyer le Congo. Parce que l'UDPS a sa vision, l'INC a sa vision et l'MLC a une vision. L'IDPS, ils prônent quoi? La tolérance. Tandis que l'INC, ils étaient dans la majorité. Les gens qui ont géré ces pays, ils n'ont pas pensé à la population. Et tandis que les MLC, ça c'est un parti qui est venu avec des armes. Vous allez mettre tout ce monde-là ensemble pour vous donner quoi? Absolument rien. Les Congolais ne doivent pas rêver.
C'est une bonne chose, hein. Si ils se mettent ensemble, parce que, comme disent nos ancêtres, un seul doigt n'arrive pas à nettoyer la figure. Ensemble, ils peuvent effectuer de bonnes choses. Maintenant, reste à vérifier qu'est-ce qui est caché derrière cette alliance.
Je ne crois pas que ça soit une bonne chose parce que l'opposition nous a déjà démontré à maintes reprises qu'ils ne peuvent pas partir ensemble. Surtout que la philosophie des trois partis de l'opposition ne sont pas les mêmes. L'UNC nous a prouvé cela en 2011. L'UDPS nous les avait prouvés en 2006 en refusant de participer aux élections. Le MLC, c'est pratiquement un parti politique qui aujourd'hui présente des couacs, surtout avec le président qui est toujours emprisonné. On pense que c'est mieux que chaque parti puisse partir avec son courant électoral.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Égypte, 36 djihadistes ont été tués au cours des 5 derniers jours lors d'opérations menées dans le nord et le centre de la péninsule du Sinaï. Les forces armées égyptiennes ont lancé le 9 février une vaste campagne anti-djihadiste nommée Sinaï 2018, centrée notamment sur cette péninsule où le groupe État islamique est très actif. Au total, plus de 100 djihadistes et au moins 16 militaires ont péri depuis le lancement de cette opération. En Russie, le président Vladimir Poutine a été réélu dimanche pour un quatrième mandat à la tête du pays, fort d'un score aux allures de raz-de-marée, toutefois marqué par des accusations de fraude formulées par l'opposition. Le compte-rendu de Jean-Roger Bion.
Le président russe a obtenu 76,4% des suffrages, bien plus que les 63,6% obtenus en 2012 et tous les sondages de ces dernières semaines selon la commission électorale. M. Poutine devance le candidat du Parti communiste, Pavel Grudinin, qui ne récolterait que 12% des voix, devant l'ultranationaliste Vladimir Zhirinovsky, autour de 6%, et la journaliste proche de l'opposition libérale, Ksenia Sobchak, 1,5%. Vladimir Poutine est conforté à l'issue de ce scrutin comme l'homme incontournable de son pays, qu'il a replacé au premier rang sur la scène internationale au prix d'un climat de guerre froide. L'opposant le plus acharné du pouvoir, Alexei Navalny, interdit de participation et qui avait appelé au boycott, a accusé les autorités d'avoir gonflé le taux de participation grâce à de nombreuses fraudes, en bourrant les urnes ou en organisant le transport massif d'électeurs vers les bureaux de vote. Même constat de l'ONG Golos, spécialisée dans la surveillance des élections, qui fait état de plus de 2700 irrégularités, dont des entraves au travail des observateurs.
Pour terminer, crise migratoire, la justice italienne a placé dimanche soir sous séquestre le navire d'une ONG espagnole engagée dans le secours aux migrants. Une organisation soupçonnée d'association de malfaiteurs en vue de favoriser l'immigration clandestine. Le navire Open Arms, qui a secouru plus de 5000 migrants depuis l'année dernière, se trouve désormais au port de Pozzallo, dans le sud de la Sicile, où il avait débarqué samedi 216 migrants qui ont été secourus jeudi dernier au large de la Libye. L'enquête ouverte par le parquet du Katan en Sicile contre l'ONG, son fondateur, le chef de mission et le capitaine du navire fait suite à cette opération de secours. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.